Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Je me rappelle très bien, quand j'étais jeune, que je regardais avec beaucoup de mépris les vieillards, souvent académiciens, qui donnaient des conseils aux jeunes gens.
Ça vous énervait?
Je les vomissais.
Carrément.
Oui, je vomissais. Et je me suis juré que je ne serais pas le vieillard qui dit aux jeunes gens « Ah, c'était mieux avant ». Vous savez, je ne crois pas que c'était mieux avant.
Deux monuments de la culture francophone sont partis comme ça, d'un coup, un jour après l'autre. Que l'on apprécie ou pas, Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday, il y a des jours comme ça, des semaines comme ça, où la disparition d'une personnalité importante laisse en nous une trace de nostalgie, renvoyant à notre génération, aux moments de vie passés, à nos disparus et même à notre propre disparition future. On n'a pas forcément tous quelque chose en nous de Johnny, mais nous avons tous en nous quelque chose de notre époque. Ces deux-là, Jean et Johnny ont marqué nos sociétés à travers toute la francophonie. Alors ce week-end, on va forcément y penser, forcément en parler, aux proches, aux amis, à la famille. Dans la librairie francophone, on y pense aussi. Je vous annonçais la semaine dernière une grosse surprise. Je vous avoue qu'on ne s'attendait pas à celle-là avec la mort de ces deux personnages. La grosse surprise, c'est l'élégante, pétillante et bienveillante Juliette Binoche. Elle est avec nous pour une rencontre exceptionnelle avec le poète Christian Bobin, qui est là aussi en plateau. Et nous recevrons l'écrivaine franco-ivoirienne Véronique Tadjo pour un roman sur la lutte contre le virus Ebola en Afrique.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Bonjour à tous, c'est la librairie francophone qui vous accompagne, une librairie très spéciale aujourd'hui. Quatre libraires sont parmi nous quand même, comme chaque semaine, en multiplex. Jérémy Laniel est au Canada, dans la librairie Carcajou à Rosemère. En Belgique, c'est Annick Dor à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine. Pour représenter la France, c'est Grégoire Courtois, libraire à Auxerre, dans la librairie Oblique. Et enfin, en Suisse, c'est Claire Renaud, libraire à Genève, dans la librairie Atmosphère. Bonjour à tous.
Bonjour,
bonjour
Emmanuel.
Bonjour.
Ils sont en forme. Merci d'être avec nous tous les quatre. Vous allez nous accompagner, bien sûr, dans cette émission spéciale. Bonjour Juliette Binoche.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans cette librairie francophone à travers la francophonie pour cette rencontre poétique avec Christian Bobin. Bonjour Christian.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes le bienvenu ici, toujours. Vous êtes chez vous ici, Christian, quelque part. Alors on commence toujours cette émission par une anecdote personnelle. On va commencer par votre rencontre, car vous vous connaissez déjà, je l'ai appris d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là ensemble à la radio pour la première fois, mais vous vous êtes déjà rencontrés, racontez-nous
Juliette. On a dîné ensemble, Frédéric Lenoir nous a réunis un soir et chez lui, dans son appartement à Saint-Germain, et voilà, on a passé une soirée délicieuse et on n'a pas forcément parlé de poésie, mais de la vie, je crois, et avec un bon verre de vin rouge, si mes souvenirs sont bons.
Oui, c'est ça. Christian Bobin, Juliette Binoche face à vous, comme ça.
Juliette Binoche, c'est un rire qui vous précède souvent.
Comme tous les rires, c'est complexe.
Ouais, c'est
vrai. Un soleil, c'est une arme, c'est un habit seigneurial et enfantin, c'est beaucoup de choses. Mais c'est d'abord votre rire, si
c'est
vous permettez.
Oui. C'est ce que je retiens d'elle, que j'ai déjà interviewé, hein. Juliette, on s'est déjà vu. Et c'est cette forme de joie, ce rire, et vous êtes très drôle en fait.
Mais il ne m'appartient pas en fait, hein. Ça sort de moi un peu à mon insu.
Oui. Sans qu'on s'y attende parfois. Oui,
oui mais moi non plus, je ne m'y attends pas forcément, c'est ça la chose, c'est que ça me prend... Mais je vais vous raconter, puisque vous aimez les anecdotes en début d'émission.
Bon, c'est la tradition,
À deux ans, mes parents s'étaient séparés et ma mère nous avait emmenés dans une maison de famille avec son frère exactement. Et à un moment donné, au dîner, j'ai ri, mais j'avais deux ans. Et mon oncle n'a pas supporté mon rire et nous a demandé de partir. Alors que ma mère était en séparation, elle n'avait pas de maison. Donc ça a été un peu tragique et à la fois très comique, comme vous voyez. Mais c'est un rire qui peut être très dérangeant, mais que j'ai depuis que je suis enfant.
Ouais.
Et qui part d'un coup et qui est une sorte de cloche qui sonne. Je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est comme ça.
Bon, nous verrons si le rire surgit à un moment dans cette émission. Juliette Binoche rencontre Christian Bobin cette semaine dans la librairie francophone. Jean d'Ormesson est donc mort à l'âge de 92 ans. Éternel jeune homme, pétillant et malicieux, ses idées politiques ont divisé les Français. Mais l'âge aidant, sa personnalité s'est bonifiée et même universalisée. Avec ses envolées, dignes d'un philosophe, il a donné à entendre de la joie et une profonde réflexion sur l'existence. Jean d'Ormesson rassurait toutes les générations. Avec sa soif de vivre et son élégance, délicat, il était capable de vous aider à mettre votre manteau en partant de chez lui, de vous raccompagner jusqu'à votre véhicule au portail de sa maison. C'est vrai, je l'ai vécu. C'était ça, Jean d'Ormesson, la bienveillance avec l'autre. Nos libraires, suisses, belges, français et canadiens, lui rendent hommage aujourd'hui. Tour d'horizon de la francophonie. On commence par la Belgique, Annick Dor.
Oui, alors c'est vrai qu'en Belgique, il était connu et apprécié. Il avait, c'est vrai, tout à la fois un côté facétieux, brillant, érudit, gai, courtois, incisif aussi. Et alors chez nous, à la librairie, ben c'est vrai qu'il a un lectorat fidèle qui attend chaque année son dernier opus. Ses livres plaisent, alors sans doute parce que ben il pose des questions essentielles, des questions existentielles. Voilà, donc en un mot commençant, son esprit et son humour vont nous manquer.
Et jusqu'en Belgique, donc, apparemment. Jérémy est au Canada. Vous, vous êtes beaucoup plus nuancé, Jérémy.
Oui, parce qu'en librairie, ben, du moins, ceux que j'ai fréquentés, ça n'a jamais été vraiment un excellent vendeur, à part quelques lecteurs fidèles, exactement comme en Belgique. De mon côté, je vois un homme, plus un homme de son époque, hein, membre d'une certaine élite littéraire parisienne, misogyne à ses heures et un peu m'as-tu vu.
Bon, ça n'engage que vous. En France, Grégoire Courtois, il se marre. Sa disparition a été très commentée, Grégoire.
Oui, je rigole aussi.
Ça vous fait rire.
Mais il n'empêche qu'en France, effectivement, Jean d'Ormesson, c'est un peu le grand-père de la littérature. Hein, quelqu'un qui, comme vient de le dire Jérémy, malgré tout, est un peu plus un personnage médiatique, est devenu plus un personnage médiatique que littéraire. Il n'empêche que, pour le coup, en France, c'est vraiment des succès de librairie systématiques, peu importe l'épaisseur du livre, peu importe ce que c'est. Il y a vraiment un public qui est au rendez-vous parce que le personnage représente la littérature française représentée, malheureusement.
D'accord. Rappelons quand même qu'il se déclarait féministe et qu'il a tout fait pour que Marguerite Yourcenar entre à l'Académie française et pour la présence des femmes à l'Académie. Enfin, la parole est à la Suisse. Claire Renaud, quel est votre point de vue? Comment a été perçu Jean d'Ormesson en Suisse?
Alors, d'une part, il avait une maison en Suisse dont il venait très souvent. Moi, je l'ai trouvé toujours délicieux quand je le croisais, bienveillant, gentil. Il plongeait ses yeux bleus dans les nôtres et on était très vite conquis par son charme. Et moi, j'ai un souvenir de sa voix.
On va écouter justement la voix que vous aimez tant, Claire Renaud. La voix de Jean d'O avec l'une de ses dernières interviews à la radio. C'était il y a un an tout juste. En voici un large extrait.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Bonjour Jean d'Ormesson.
Bonjour.
Alors votre livre Jean d'Ormesson est un manuel, il y a même un mode d'emploi. La question centrale, qu'est-ce que je fais là? Vous vous posez toujours cette question-là?
Écoutez, c'est une question que je me suis toujours posée. Je me rappelle très bien qu'enfant, à 6 ans, je jouais avec des petits amis et tout à coup je m'arrêtais en me disant mais... qu'est-ce que je fais? Je vous assure, mais à quoi ça sert? Mais où est-ce que je vais?
Alors, ce que vous faites là, à ce moment-là, dans cette situation donnée, ou ce que vous faites là sur Terre, tout simplement?
Les deux.
Ah oui.
Vous savez, le point de départ de ce livre, dont il faut dire d'abord qu'il est très, très court.
Oui, mais très, très dense.
J'ai écrit des livres très longs, celui-là est un peu serré. Le point de départ, c'est l'étonnement. Et vous savez, l'étonnement, c'est un sentiment proprement philosophique. Le monde est en effet un mystère. Pour aller très très vite, on peut dire que Dieu est tout à fait invraisemblable.
On va revenir à Dieu. Oui.
Mais le monde, avant de parler même de Dieu, le monde est invraisemblable aussi.
Alors du coup, vous nous conseillez dans ce livre de fermer les yeux, de profiter, et je cite, de profiter d'une existence qui est une sorte de miracle, soyons heureux. Jean d'Ormesson, quand on lit cette phrase, on se dit, est-ce qu'on peut vraiment être heureux dans ce monde concurrentiel, ce monde qui nous oblige à nous dépasser, à dépasser les autres aussi parfois, le monde de l'entreprise, le monde des médias, tout ce monde-là, c'est un acharnement permanent, on le voit, vous l'avez vécu vous-même ça?
Oui, je l'ai vécu. Je ne peux pas vous dire que je l'ai aimé. Cet acharnement, je ne l'ai pas aimé. J'ai été chef d'entreprise, puisque j'ai été directeur général d'un grand journal français, le Figaro. Je n'aime pas beaucoup le pouvoir, pour tout vous dire. ce que j'aime plutôt, c'est traverser le monde en rêvant et peut-être en essayant d'en tirer le plus de bonheur possible. Mais il y a une malédiction, c'est que je crois qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Je cherche beaucoup à être heureux, mais je ne peux pas réussir à être heureux si les gens sont trop malheureux autour de moi. C'est pour ça que je suis venu ici, non pas vous parler de grands problèmes, d'humanisme, des droits de l'homme, mais pour que vous alliez mieux, pour que je puisse être heureux.
C'est un recueillement, la musique aussi. Il y a des prêtres qui disent, puisque vous êtes catholique, que c'est une forme de prière. Et vous êtes très délicat avec la religion dans ce livre. Vous êtes très délicat avec Dieu. Vous prenez comme ça des précautions, peut-être pour ne pas le froisser. Oui. Mais l'air de rien, vous posez la question de son existence. On a l'impression que vous avez un petit peu peur de lui, quand même, s'il existe.
Mais écoutez, je vais vous dire... encore une fois, j'espère mourir dans la religion catholique. Mais Dieu m'a refusé un don qui est la foi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère qu'il existe. Parce que s'il n'existe pas, tout ce que nous voyons autour de nous est vraiment tellement abominable. Alors vraiment, la seule espérance, c'est Dieu. Et évidemment, j'ai une grande espérance en Dieu.
Entre le plaisir, la liberté et la joie. Trois paramètres de la vie que vous abordez dans trois chapitres de ce livre d'ailleurs. Lequel choisissez-vous pour terminer cet entretien ? Le plaisir, la liberté ou la joie ?
Écoutez, j'ai beaucoup aimé le plaisir. J'ai beaucoup aimé le plaisir.
J'en étais sûr que vous alliez répondre ça.
J'étais un homme de plaisir. Oui.
Même si le plaisir, vous dites, n'a pas bonne réputation, il coûte cher, mais c'est surtout le compagnon du désir.
Oui, la liberté, j'ai adoré la liberté. Si j'ai été quelque chose, c'est libre. Mais il y a quand même une chose qui est supérieure au plaisir, supérieure à la liberté, supérieure au bonheur, c'est la joie. La joie, vous savez, c'est ce qui vous transporte. Ça nous fait monter au septième ciel.
Vous n'avez pas choisi, Jean, hein, entre les trois. Vous êtes malin parce que vous décrivez les trois. Vous commencez par le plaisir, mais vous n'avez pas choisi.
Oh, ben je choisirais sans hésitation la joie.
Ah, sans hésitation la joie.
Si vous vous perdez dans le plaisir, vous ne ressentez plus cette joie que vous donne Mozart, un lever de soleil. Pour des gens de plaisir, vous savez, le lever de soleil ou le coucher de soleil, c'est presque rien.
C'est banal.
Alors, alors que la joie est là. Quelle est la joie ? C'est de vivre.
Merci beaucoup Jean d'Ormesson. Merci infiniment pour cet entretien délicat chez vous ici dans votre maison de Neuilly. Merci pour votre accueil.
Merci à vous, j'étais enchanté de parler avec vous.
Merci beaucoup Jean, à bientôt.
Merci, c'était épatant, c'était très très bien. Et mille vœux pour la francophonie.
Jean d'Ormesson, il y a donc un an chez lui à Neuilly-sur-Seine. C'est ce jour-là, en partant, qui m'aida à remettre mon manteau du haut de son 1m65 face à mon 1m80, délicat, je vous dis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien de 15 minutes sur notre site internet. Autre auteur et académicien élégant et délicat, c'est Dany Laferrière. Il a accepté de rendre hommage à son ami de l'académie, Jean d'Ormesson. C'était mercredi à Paris. Bonjour Dany Laferrière.
Bonjour.
Je ne pensais pas vous voir si vite après Radio France Faites le Livre, mais les circonstances font que l'Académie française est en deuil avec la disparition de Jean d'Ormesson. À quel point va-t-il manquer à l'Académie française ?
Oh, c'est un gros trou, Jean d'Ormesson. Je pense qu'il y est entré à l'âge de 48 ans. Il en ressort à 92. Et c'est un de ces académiciens qui dure longtemps et qui fonde une institution. Ce qui va manquer, naturellement, c'est son regard pétillant et sa façon d'être un perpétuel gamin et cette sagesse qui arrive comme ça, comme une fleur au bout d'une branche. On ne s'y attendait pas et brusquement, il dit ce qu'il fallait entendre.
Alors c'est lui qui vous a convaincu de vous présenter, de présenter votre candidature ?
Il me suivait depuis longtemps. On avait même une correspondance qui dure jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à sa mort. Et il a plutôt convaincu Hélène Carrère-Dancausse, qui n'a pas hésité longtemps non plus, pour me demander de venir à l'Académie française.
Comment ça se passe, Dany Laferrière, quand un immortel disparaît à l'Académie française? Qu'est-ce que vous ressentez tous? Comment vous vous consolez, je dirais presque?
Et d'abord, il faut rappeler le mot de Cocteau, un immortel qui meurt devient un fauteuil. C'est un joli fauteuil que celui de Jean d'Ormesson, il sera pas, on ne le remplace pas. Et bon, ce qui se passe dans cette maison où l'on a l'impression d'être dans une famille, et c'est qu'on se serre les coudes. Il y a beaucoup de gens de l'Académie qui sont très âgés, et je ne vois pas beaucoup de dépression, de tristesse. Et c'est comme si, brusquement, il y a une énergie nouvelle. Ça paraît comme une secte, une société secrète où l'on mange ses morts. J'ai l'impression qu'on va se réunir et on va absorber cette énergie magistrale, imparable, irrésistible de Jean d'Ormesson et qu'elle va, cette énergie va nous rajeunir tous de 10 ans.
Merci, Dany Laferrière. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.
Christian Bobin, vous qui avez reçu le prix de l'Académie française en 2016 pour l'ensemble de votre œuvre, quel regard portiez-vous sur le personnage, sur l'œuvre de Jean d'Ormesson?
Rassurez-moi, on est à la radio là.
Oui.
Oui.
Pourquoi?
Donc, parce que les voix sont très importantes. On vient d'entendre la voix de Jean d'Ormesson et ouais. En l'écoutant, comme en aveugle, si vous voulez, qui est ouais. La meilleure façon d'entendre. J'ai entendu, je voyais une pomme caramélisée, ouais. Un petit peu, vous savez, les pommes qu'on trouve sur les fêtes foraines. Mmh. J'entendais un homme qui se savourait. Et le mieux à faire avec les gens qui ont disparu, c'est de les aimer, c'est-à-dire de se battre avec eux, si vous me permettez. Et dans ce que j'ai entendu de lui, là tout à l'heure, ce qu'il disait, je vais me permettre de pas être d'accord, quand il met le coucher de soleil ou le lever du soleil dans la petite gamme éphémère des plaisirs, mmh. À quoi il oppose la voix presque pontificale de la joie. Je ferai venir juste une petite compagne qui, elle aussi, est passée dans un autre monde depuis longtemps, maintenant depuis très longtemps, la philosophe Simone Veil. Comme on le sait, ou comme on ne le sait peut-être pas, quand elle était enfant, dès qu'on lui apprenait qu'il y avait un coucher de soleil qui était en train de se produire quelque part, elle lâchait tous ses jouets, tous ses livres, et elle courait le voir. Et elle a raison, je pense qu'elle a raison, parce que le soleil, c'est l'astre de la pensée.
De désaccord avec Jean d'Ormesson jusqu'au bout, hein, Christian Bobin. C'est bien, vous êtes honnête et intègre, c'est vrai. Vous avez raison de parler comme ça.
Jean d'Ormesson, si vous voulez, je pense que... Juste ce point, c'est qu'il a rempli une place, et c'est très bien, cette place doit être remplie. Il y a eu beaucoup de Jean d'Ormesson, me semble-t-il, dans la littérature. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois. Ouais. Voyez Juliette Binoche, les mots, la philosophie d'Ormesson.
J'ai eu l'impression qu'il parlait du coucher de soleil et du lever du soleil dans la joie. Moi, j'ai l'impression
que c'était... Ah, vous n'avez pas compris la même chose, tous les deux. Moi, du coup, vous me faites douter, moi, je sais
oui,
plus.
Oui, moi aussi, j'ai douté. Donc, c'est peut-être moi qui l'ai mis, alors, subrepticement.
Oui, bah, je ne sais pas, du coup. Je ne sais pas de quoi il parlait. Pourtant, je l'ai écouté, réécouté, monté et tout, je ne sais plus. Vous appréciez son œuvre? Vous appréciez le personnage ou pas?
Oui, je l'ai rencontré aussi une fois... Je ne connais pas toute son œuvre, loin de là, mais bon, c'est un personnage qui nous a quand même inspirés ouais, tous. Ouais.
On va parler poésie avec vous. Après cette semaine éprouvante, on a bien besoin de ça. Vous avez accepté cette rencontre avec Christian Bobin. Un moment unique et exclusif dans la librairie francophone. La poésie qui, selon vous, Juliette Binoche, peut transformer. On va revenir sur cette notion. Un petit détour musical par l'Afrique d'abord avec Toto Bona Lokwa. Et on revient sur ce plateau avec Juliette Binoche et Christian Bobin.
Si moi aimer depuis nanina, non. Toujours et tout dans la gare. Quelquefois à mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour ta. Oh non, non,
maman,
les mains qu'à songer, on peut pas attendre.
Maman,
tout corps en moins qu'à mon desserré.
Maman,
les mains qu'à ouais, c'est au moins qu'attendre.
Maman.
Taka mwa miti, wando vimo yeva. sorti mwen lev matel, wando vi mkwa mama. Di kan avoti loten, wando bambe mwoye mama. Yende lo, na yende dango ndego, baladi ndego to, binde to ya yende.
L'amour qu'a songé, on peut pas attendre. Tout corps en moins qu'à m'en desserrer. L'amour qu'a ouais, c'est au moins qu'attend. Tout doumi, c'est ça.
Mama avec le trio Toto Bona Lokwa dans la librairie francophone, et nous retournerons en Afrique tout à l'heure avec le roman saisissant de Véronique Tadjo.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Juliette Binoche et Christian Bobin sont dans la librairie pour une rencontre inédite autour de la poésie. Première partie cette semaine. Juliette Binoche, on a organisé cette rencontre à la radio car on m'a dit un jour que vous aimiez Christian Bobin et que dans le cadre des rencontres que nous provoquons entre artistes et écrivains, ce serait parfait. On vous l'a proposé, vous êtes là. Christian Bobin est là aussi, c'est juste formidable. C'est la magie de la radio et la magie aussi de votre générosité. Qu'est-ce que vous aimez dans l'œuvre de Bobin, vous, Juliette?
Ben, c'est la poésie. C'est pas Christian que j'aime spécialement, c'est la poésie, c'est-à-dire comment mettre des mots ensemble pour créer un univers et une vérité qui sort d'un être qui vit et qui a pas peur de ses ombres, qui a pas peur de ses soleils, qui est. Mais j'avais demandé d'ailleurs il y a longtemps, parce qu'on m'avait proposé de faire des interviews avec des personnes. J'avais fait un spécial Libé, j'avais demandé de faire une interview avec vous. Et puis, vous n'aviez pas
refusé.
Répondu, donc j'ai demandé à Nick de Souzenel, finalement. Et on s'est rencontrés, ça a été génial, et on est devenus proches.
Il n'est pas
mais
facile,
donc,
Christian.
Mais ce n'est pas grave. C'est après, pas quand on s'est vus chez Frédéric,
je crois qu'on m'avait
dit, si j'avais su.
C'est vrai. Incroyable. Bon, il parle beaucoup de l'enfance, Christian Bobin.
Oui.
Ça vous dérange ou ça vous soulage,
Juliette? On est fait de ça. On est fait de ça. Moi, je parle que de ça à travers mes films. C'est la matière première. C'est la matière qui n'a pas encore toutes les protections. Donc, ces premières émotions, ces premiers conflits, ces premières prises de conscience qui deviennent très inconscientes après, elles sont l'essence même de qui on est. Et il va falloir toute une vie pour un petit peu démêler tout ça. Et c'est certainement pour ça que l'écriture de Christian Bobin me touche aussi. Ouais. C'est qu'il y a une relation à la nature, au vent, à la lumière, et aux émotions premières de la vie. Je crois que c'est ce qui fait que... En fait, je vais vous dire, moi quand j'ai commencé à lire les poèmes, au collège...
Très tard, hein, vous l'avez confié ça, hein, avoir appris la langue et la lecture très tard.
Ça n'arrivait pas à rentrer dedans, en fait. Je n'arrivais pas à être en relation avec. Et pourtant, ma mère était mon prof de français. J'ai adoré Rimbaud quand même. On apprenait un poème par semaine. Donc...
Mais vous n'aimiez pas, à l'origine?
Non, ce n'est pas que je n'aimais pas, c'est que je n'arrivais pas à rentrer en contact. Ouais. C'est une autre histoire, ça. Et en fait, c'est Anki Kroor, qui est un poète d'Afrique du Sud, qui je devais jouer un peu son rôle dans un film.
In My Country.
In My Country, exactement. Et elle m'a lu sa poésie. Elle m'a dit, d'abord, je vais te faire visiter The Little Karoo, qui est la région d'Afrique du Sud où elle a vécu, qu'elle a décrit dans ses livres. Et on est parti en voyage pendant une dizaine de jours, en montrant des régions différentes. Et à un moment donné, dans la voiture, on s'est arrêté. Elle a ouvert son livre. D'ailleurs, je lui ai demandé, et elle m'a lu ses poèmes. Et là, c'est pour moi, ça a été vraiment une invitation au voyage et une initiation, en fait, à la poésie. Comme si les mots rentraient dans mon sang. Et à partir de là, ça ne m'a pas quittée, en fait. Et je pense que l'initiation, elle est nécessaire, presque, à être comment arriver à cette porosité, à être capable d'être en relation avec cet univers créé.
Christian Bobin, alors vous avez dit être captif très tôt, dès l'enfance. Alors l'inverse de Juliette Binoche, vous étiez tout de suite dans les livres, tout petit.
Oui, mais je rejoins ce qui vient d'être dit aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je trouvais dans les livres? Je trouvais ce que l'imprimeur, ni même l'éditeur, n'avait pensé y mettre. C'est-à-dire, j'y trouvais le grand vent de la vie. J'y trouvais la nature entière. Je crois que la poésie, ce qu'on appelle la poésie, elle a mis... C'est à peu près comme Dieu, c'est infréquentable à peu près comme Dieu, et c'est aussi nécessaire et vital. Et c'est pratiquement impossible à définir, ou alors il faut multiplier les définitions, ce qui revient à n'en avoir aucune. Celle que je donnerai aujourd'hui, sur l'instant, devant vous, avec vous, c'est une parole. C'est une parole qui vous arrête, presque comme un gendarme met la main sur votre épaule, voyez ? Mmh. Et c'est une parole souvent très simple. C'est comme une fraternité qui naît dans l'instant, qui surgit et qui apparaît dans l'instant.
Il y a une dimension mystique, Juliette Binoche, vous êtes d'accord avec ça ?
Retrouver une unité, en fait, ce un qu'on cherche tous et qu'on a du mal à vivre. Et c'est vrai que quand on a... C'est vraiment ça, c'est le livre frère, le livre sœur, la proximité, le lien, le partage, finalement. Simple, mais vrai, et qui vous emmène, qui vous fait, en fait, vous sentir moins seul.
Alors, vous parlez de frères, vous allez lire un extrait du dernier recueil de Christian Bobin qui s'appelle Frères nuages, sur la musique de Jean-Sébastien Bach que vous citez plusieurs fois dans ce livre, Christian. Binoche lit Bobin dans la librairie francophone.
À Crans-Montana, au réveil, j'ai vu les nuages ceinturer la montagne. Je n'avais plus besoin de rien. Je n'étais plus personne. Il y avait en nous une légèreté si grande que si nous la laissions être, nous n'existerions plus. Ou alors comme existent les poèmes et les portes dans les rêves. Écrire, frapper l'une contre l'autre deux cymbales de silence. Un jour, il nous faudra traverser une vitre sans la briser. L'effort sera terrible, qui changera notre cœur en rayon de soleil. Mourir sans effroi est le privilège des nuages. Combien de cieux verrai-je avant ma mort, et combien après ? Les plus beaux opéras se donnent en secret. Enfant, j'écoutais dans le noir de ma chambre les voix des parents, parlant avec confiance de l'avenir. Aucun chef-d'œuvre ne m'a jamais donné autant de paix. À part toi, petit nuage, à part toi.
Formidable interprétation de Juliette Binoche. Formidable, Juliette, vraiment. Félicitations, c'est magnifique. Non, mais c'est vrai, on a les larmes aux yeux avec Christian Bobin. C'est ouf. Avec la semaine qu'on passe là. Merci beaucoup pour cette lecture. Qu'est-ce que vous ressentez? On a l'impression vraiment, effectivement, que les mots vous investissent complètement.
On est emporté par ce qui est. En fait, c'est une rencontre, la lecture de la poésie. C'est une rencontre au sein de soi-même, finalement. un démêlage, un épluchage, enlever toutes les couches pour arriver à une possibilité de recevoir. Et moi, je peux dire que c'est mon cas parce que la poésie, je n'arrivais pas à rentrer dedans. Je me souviens d'ailleurs, j'avais fait un film de Jean-Luc Godard et il y avait le fameux acteur là qui adorait Claudel, vous allez m'aider.
Cuny.
Voilà, Cuny. Et il nous avait invités à lire d'ailleurs de la poésie. Je me souviens, il lisait avec sa voix d'outre-tombe et avec cette facilité, avec des silences entre les mots et même à l'intérieur des mots. Mais il y avait toute une sorte de résonance. Ouais. Et j'étais à côté jeune lectrice et jeune actrice et je me sentais mais totalement incapable. Donc vous me faites beaucoup de plaisir aujourd'hui.
Voilà, Christian Bobin, il est question de la mort, hein, souligné très subtilement d'ailleurs dans ce texte. La mort qui rôde, alors on l'a vécu cette semaine parce que quand des grandes personnalités disparaissent, ça renvoie finalement, hein, on le disait tout à l'heure, à notre propre mort. Vous pensez que la poésie est un antidote ou bien c'est un rempart face à nos angoisses de la mort?
Je n'aimerais pas qu'elle soit un rempart. Ouais. Je pense que, comment dire, ce sont deux petites sœurs, excusez-moi d'être banal, mais ce sont deux petites sœurs, la mort et la vie. Elles se tiennent par la main. Si vous invitez l'une chez vous, vous êtes obligé d'inviter l'autre. Non par goût mortifère, par goût enténébré. Et si on regarde bien, l'une éclaire l'autre. La petite cadette qui est la mort éclaire la grande, la très très grande qui est la vie. Elle l'éclaire, elle lui donne son prix, elle lui donne sa valeur. Un poème ou une écriture, de façon plus générale, pour moi, c'est saluer ce qui est en train de passer et de nous quitter. Donc c'est pas séparable. Mmh.
Donc on apprivoise la disparition, c'est ça que vous voulez dire? Avec la poésie?
On s'y
habitue.
On embrasse la vie avec avec les coups qu'elle s'apprête à nous porter.
Bon, Christian Bobin, je vous propose de lire à présent Juliette Binoche, qui a publié en 2008 un beau livre de dessins et de poèmes, des lettres, là encore, destinées aux réalisateurs avec lesquels elle a travaillé. Un poème destiné à Diane Curis ou à Jacques Doyon? Vous choisissez lequel, Christian?
Jacques Doyon.
Allons-y. Voici le poème de Juliette Binoche, lu par Christian Bobin.
J'ai déchiré la peau de l'enfance, donnant ma vie à battre. J'étais à sauver, prête. Tu as pêché mon acier intérieur. Séduction protectrice des désirs pas comme il faut. J'étais l'annonciatrice d'une femme à venir.
Pourquoi avez-vous ressenti ce besoin, Juliette Binoche, de vous adresser à vos réalisateurs avec des poèmes?
Moi, au départ, les Cahiers du cinéma m'avaient demandé de faire des portraits de sept réalisateurs avec qui j'avais travaillé. Donc, j'ai fait assez rapidement. Et puis après, en fait, j'ai eu envie d'écrire à Kieslowski qui était mort. Comme si j'avais pas vraiment dit tout ce que j'avais à lui dire. Comme sa mort a été soudaine, c'était difficile d'accepter cette mort-là. Et en fait, après, je me suis dit, mais il y a eu d'autres réalisateurs qui sont morts. Et donc, j'ai écrit à Louis Malle. Et puis après, j'avais envie de m'adresser à chaque réalisateur. Parce que je me suis dit, finalement, on vit des moments tellement intenses sur les films. On se donne. Il y a beaucoup de non-dits, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont filmées, qui sont vécues au moment du tournage. Et puis, c'est construit ce livre, finalement, comme ça, parce que j'avais peint ces portraits très rapidement comme un jet, qui
ne
m'appartenait pas, d'ailleurs.
Ils sont accompagnés de dessins,
ces poèmes. Et les mots, c'était pareil. Mmh. Pour moi, il n'y a pas de différence, hein, finalement. D'écrire ou de peindre ou de danser ou de jouer, ça, ou même de chanter récemment avec Barbara, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire, ça sort de soi, il faut juste oser aller vers l'extérieur. Il faut un petit peu de courage, de s'exposer.
Et de risquer aussi, parce qu'on ne vous attendait pas sur le domaine de la danse, par exemple.
Oui, oui.
Quand vous interprétez Barbara non plus. Enfin,
oui,
on vous imagine plus au cinéma ou au théâtre, Juliette Binoche. C'est vrai que c'est risqué, ce que vous faites à chaque fois.
Oui, oui, mais c'est parce qu'on a toutes ces possibilités-là. Hein. On a quatre membres et un tronc et une tête. Et voilà tout ce qu'il y a dedans. Et donc, tout est possible et... Je me souviens d'une conversation avec Jeanne Moreau qui m'avait dit « Il faut rendre grâce ». Et j'avais trouvé ça tellement simple Et je trouve que c'est ça. Si le cadeau de la vie vous est donné, si vous avez la chance d'être dans un lieu où vous pouvez vous exprimer, ben, faut y aller, quoi. Il faut risquer des choses nouvelles.
Et vous êtes une très bonne dessinatrice. Vous aviez fait un dessin d'ailleurs lors d'une interview passée. Dessin qu'on avait filmé. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Internet dans l'émission Escale Estivale. Juliette Binoche qui dessine un portrait. Voilà, en direct. Ça dure 6 minutes. C'est une vidéo toujours disponible. Merci beaucoup Juliette Binoche. Merci Christian Bobin. Vos lettres poétiques, Christian, Un bruit de balançoire sont parues chez l'Iconoclaste. Vous allez rester avec nous pour enregistrer la seconde partie de cet entretien et de cet échange unique. Seconde partie qui sera diffusée pour les fêtes de Noël. Juliette Binoche, nous allons écouter un titre de Johnny Hallyday, hommage national ce week-end en France. La Belgique aussi multiplie les signes d'hommage. Vous l'avez rencontré, Johnny Hallyday? Vous avez quelque chose?
Oui, une fois, oui. À la suite d'une projection de film, c'était Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau. Et il était là. Et bon, c'était une conversation assez rapide, il était sympathique. Mais c'est vrai qu'il avait une voix pleine dans les aigus extraordinaire. Hein. Il a une puissance.
Ouais.
Et puis le fait qu'il soit finalement orphelin, ça nous touche beaucoup tous. Et qu'il ait cette percée et cette fragilité aussi qu'il a essayé de, par moments, de cacher et puis de transformer. Ouais.
Vous avez quelque chose en vous de Johnny, vous?
Et franchement, on a tous été abandonnés à un moment donné de notre vie.
C'est bien, très bien répondu, Juliette. Bon, merci beaucoup, merci à tous les deux. À suivre la chronique des libraires tous ensemble, Véronique Tadjo et son roman sur la solidarité et la lutte contre Ebola en Afrique. Et on poursuit donc en musique avec ce titre de Johnny Hallyday, un titre qui a une histoire très particulière que je vous raconte juste après. Merci à vous d'écouter La Librairie Francophone à travers le monde.
Force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs comme une croix dans le dos. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son en bouquet de laser. À force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier. À force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto. À force d'être indien, Ensemble sous bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. De briser dans mes mains des guitares,
sur des scènes violentes sous des lumières bizarres. À force d'oublier qu'il y a la société, m'arrachant du sommeil pour me faire chanter. À force de courir sur les routes du monde, pour les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde, à force d'être enfin sans arrêt le coupable, le voleur, le pilleur, le violent admirable.
Johnny Hallyday, J'ai oublié de vivre, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. Johnny Hallyday n'aimait pas chanter cette chanson sur scène. Il disait que ça l'ennuyait, qu'elle sonnait un peu gnangnan en public sur ces grandes scènes qu'il investissait. D'autres ont supposé que le lion Johnny n'assumait pas ses paroles de Pierre Billon, son fidèle ami. Ce qui est sûr, c'est que Johnny n'a pas oublié de vivre, on lui accorde. Sa vie a été d'une intensité incroyable. J'ai oublié de vivre fait malgré tout partie des chansons préférées du public de Johnny Hallyday. J'adresse donc toutes mes pensées à ceux qui l'ont profondément aimé, parce que la tristesse et le chagrin, ça se respecte tout aussi intensément.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Allez, tous ensemble, la chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde, tous ensemble pour les coups de gueule et les coups de cœur. On commence avec le coup de gueule de Claire Renaud en Suisse. C'est à vous, Claire.
Oui, deux stars sont décédées cette semaine. Une nouvelle fois, la littérature perd la bataille face à la musique. Mardi, tout le monde me demandait des livres de Jean d'Ormesson et depuis mercredi, il n'y en a que pour Johnny. Alors si Jean d'Ormesson m'écoute là où il est, j'ai juste envie de lui chanter « Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime ».
Ouais, bel hommage Claire, merci Grégoire pour la France, un coup de gueule en écho à celui de Claire il paraît.
Bah exactement, parce que c'est vrai qu'on nous demande beaucoup de choses et même on nous force à avoir beaucoup de choses en librairie depuis ces deux décès effectivement. Alors il y a beaucoup de bibliographies autour de Jean d'Ormesson, beaucoup autour de Johnny Hallyday, mais est-ce qu'à un moment donné on pourrait pas se dire, tiens si on lisait les auteurs de leur vivant plutôt que d'attendre qu'ils meurent, parce que c'est vrai que là plus personne ne va en profiter, hein, donc il y a plein d'auteurs vivants, passionnants.
Et,
ouais, donc c'est un peu triste de voir que l'engouement du public et des éditeurs particulièrement au moment du décès de ces gens.
Allez, un coup de cœur justement pour un auteur vivant, Jérémy Laniel, au Canada.
Absolument. L'oiseau de ma mère, recueil de poésie de Nathalie Thibault aux éditions de Loi de Cravant. C'est un recueil de poèmes qui s'ouvre avec drôlerie, délicatesse. Ça se lit avec empathie, sourire en coin. Entre les collages de Nathalie Thibault qui sont dans le recueil, les poèmes concis, la poète s'ouvre à nous comme autant de petits souvenirs là, vifs et précieux. Soulignons encore une fois la beauté du livre-objet qui fait si rarement défaut chez cet éditeur.
Ah, génial. Il faut effectivement s'attarder au livre. La beauté du livre. L'oiseau de ma mère de Nathalie Thibault aux éditions Oie de Cravant. Un autre coup de cœur avec Annick Dor en Belgique.
Oui, alors on a tous été un jour confrontés à une situation où on n'ose pas dire non, hein, par peur de décevoir ou par crainte de ne plus être apprécié. C'est pas toujours facile de se positionner par rapport à autrui. Et c'est à cette réflexion que nous convie la Belge Anne Van Stappen, qui propose un chouette petit guide très concret pour gagner en assertivité et en estime de soi. Alors ça s'appelle « Je m'affirme et j'ose dire non ».
Un coup de cœur sur un livre de développement personnel donc, Annick.
Ben oui, pourquoi pas.
Ça fait rire Grégoire, parce qu'il avait fait un coup de gueule contre les livres de développement, non?
Je pense que j'en ai fait plus d'un d'ailleurs.
Aux éditions Jouvence en plus, hein, c'est les spécialistes. À vous aussi, bah, bravo, vous revenez dessus. Très bien, bon, merci à vous, merci à tous les quatre.
Bye bye Ebola. Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do Azonto, 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 Azonto.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Bonjour Véronique Tadjo.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes une femme francophone du monde. Née en France, éduquée en Côte d'Ivoire, vous avez vécu au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud. On parlait de l'Afrique du Sud avec Juliette Binoche tout à l'heure. Vous arrivez de Londres, où vous vivez. Votre roman En compagnie des hommes est un récit polyphonique autour du virus Ebola qui a fait des ravages dès 2013. Ce livre évoque la solidarité, les dysfonctionnements en Afrique, mais c'est surtout un plaidoyer écologiste. Quel lien faites-vous entre Ebola et l'écologie?
Ah, eh bien, il y a un lien très fort, puisque on a vu que la déforestation avait une influence sur la vie des animaux, c'est-à-dire le territoire des animaux se réduit et donc les animaux se rapprochent des hommes, tout simplement.
Avec les chauves-souris notamment.
Voilà, et la chauve-souris, qui est un animal porteur sain du virus Ebola, se rapproche des hommes, mais malheureusement, quand elle mange les fruits près des villages, eh bien, et que les hommes rentrent en contact avec ces sécrétions, ou voilà, et ou les tuent même pour les manger parfois.
C'est le cas dans votre livre avec deux gamins qui, au lance-pierre, tuent une chauve-souris, oui, vont la faire griller, la mangent et ils contractent la maladie.
Exactement.
Et ça part de là, en fait, l'épidémie.
Et ça part de là, oui. Mmh. Alors, donc, vraiment un lien très fort avec la déforestation.
Il y a l'arbre Baobab qui parle comme un personnage dans votre livre, Véronique. Il explique que c'est la profanation de la nature qui mène aux catastrophes sanitaires. L'arbre Baobab a tout compris.
Ben oui, il est bien placé pour le savoir. C'est un arbre, comme on le sait, centenaire, qui est aussi un arbre mythique et qui
très
existe.
Important.
Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il existe dans plusieurs pays. Il existe même en Australie, par exemple. Et donc, quand on dit Baobab, tout de suite, ça évoque quelque chose de... un arbre fantastique. Et le fait que je lui donne la parole lui permet de dire beaucoup de choses. Il se permet de dire beaucoup de choses parce qu'il a vu beaucoup de choses. Il est la mémoire du temps.
Oui, c'est la mémoire. C'est toujours la mémoire, hein, parce que c'est l'arbre des palabres aussi.
Voilà, il écoute ce que les hommes disent.
Il écoute tout le
monde. Il écoute le monde, mais il a aussi son avis.
Il y a des passages très émouvants, comme ce jeune couple séparé par la maladie et le jeune homme qui écrit des poèmes à sa fiancée pour qu'elle résiste. Combien de victimes du virus Ebola, Véronique Tadjo, on sait à peu près?
Oui, 11 000 et quelques.
11 000,
oui. Oui. Ce qui est étonnant, on peut se dire 11 000 par rapport à toutes les catastrophes qu'on a connues et qu'on connaîtra. C'est pas un chiffre énorme. Mais en fait, je crois que Ebola a vraiment frappé les consciences parce que il y avait des images absolument atroces. C'est une des morts les plus cruelles qui puisse exister. Et puis aussi, il faut dire que on est arrivé à enrayer la maladie avant qu'elle ne devienne une épidémie planétaire.
Oui, ça a été très, très juste.
On a été à deux doigts d'une pandémie.
Vous soulignez, je le disais, à la fois les aberrations du système de santé en Afrique, mais aussi la léthargie de l'Occident face aux drames africains. On réagit trop ponctuellement, dites-vous, et trop égoïstement surtout. C'est qu'on attend que ça arrive aux portes des États-Unis, par exemple, pour réagir. Pour faire quelque chose.
Oui, c'est là le grand dilemme, parce qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y a eu cette aide internationale qui finalement a réussi à arrêter la maladie. Mais en même temps, on sait qu'elle est venue malheureusement en force quand les Occidentaux ont senti que la maladie pouvait arriver jusqu'à eux. C'est-à-dire que voilà, le virus prend l'avion, le train, le bus, et voilà. En fait, c'est ce qu'il y a de terrible dans les nouvelles maladies, j'allais dire, c'est que elles n'ont pas de frontières. En fait, nous, on voit le monde comme ça, parcelé, mais en vérité, il n'y a pas de frontières pour les virus.
Et quand on sait que les antibiotiques n'ont pas d'effet sur le virus, vous le racontez dans ce roman, c'est un roman-récit, on apprend beaucoup de choses et en même temps, c'est une histoire, et que les groupes pharmaceutiques veulent s'assurer, je cite, qu'il y a un vrai marché, c'est-à-dire qu'il y a un vrai risque de mort pour vendre le plus de médicaments possible, c'est absolument affreux, on est révolté, Véronique Tadjo.
C'est un peu comme ça, malheureusement.
C'est horrible, il faut le dénoncer, vous avez raison. Place aux libraires qui ont lu votre roman, Véronique Tadjo. Les quatre l'ont lu, on va commencer par la France, la Belgique ou le Canada. Vous préférez qui?
Oh, allons pour le Canada.
Allons-y, le Canada. Avec vous, Jérémy Laniel, c'est pas le plus facile, hein, c'est le méchant de la bande. Jérémy.
Mais c'est un roman qui est non pas mal écrit, mais on aurait souhaité à un certain moment des phrases un peu plus ambitieuses.
Ça commence bien.
Dans le drame, on étouffe, on en convient. le sujet demandait un traitement pour que le lecteur accepte de s'y plonger en plein cœur de cette tragédie-là. Ici, j'ai l'impression qu'on demeure un peu en surface, on s'attrache trop peu et on taxe la redite de chapitre en chapitre.
Bien, super. Annick Dor pour la Belgique n'est pas du tout d'accord, Véronique. Annick.
Oui, non, moi, ce livre a le grand mérite, moi, je trouve, de nous montrer dans le détail les ravages de la maladie. maladie pour les victimes qui décèdent, mais aussi pour toutes les victimes collatérales. Et c'est vrai qu'au travers des différentes voies du roman, vous vous rendez compte de l'atrocité de la situation et vous nous donnez aussi, je trouve, quand même une belle leçon à méditer, que les hommes doivent apprendre à vivre en harmonie avec la nature et puis avec les animaux, ce qu'on fait trop peu.
Grégoire Courtois, pour la France, qu'en pensez-vous ?
Oui, moi, genre, je suis vraiment pas du tout d'accord avec Jérémy, parce que c'est vrai que j'ai trouvé que ce traitement choral était très très beau, justement. C'est vrai que toutes ces voix, vous en avez parlé, brossent quelque chose qui ressemble un petit peu à une cantate funèbre, en fait, hein, qui est vraiment très très respectueuse et très très belle. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans l'histoire, c'est qu'au-delà du bilan comptable qu'on vient d'évoquer, du nombre de morts, il y a aussi vraiment l'idée que le virus s'attaque aux liens familiaux, aux liens sociaux. Plus personne peut se toucher et ça devient quelque chose de très très important que seule la littérature pouvait dire, d'après moi.
Effectivement, dans ce roman, Véronique Tadjo, vous montrez très intelligemment que ce qui a été dur lors des épidémies d'Ebola, c'est de ne pas pouvoir respecter les traditions ancestrales. Les funérailles, par exemple. On ne pouvait pas toucher l'autre, il fallait rester à l'écart de l'autre.
Absolument.
Et c'est comme ça qu'il y a eu des contaminations, parce qu'on n'a pas évidemment respecté ces contraintes sanitaires.
Oui, c'est-à-dire que ça a pris un moment avant que les gens acceptent d'abandonner leurs coutumes. Ben parce que normalement, je veux dire, en Afrique de l'Ouest, on accompagne le mort. Donc ça a été très très dur de casser ces coutumes-là, mais ça a été fait quand ils ont compris qu'il fallait le faire.
Oui, parce qu'il y avait danger de mort.
Voilà,
mais c'est difficile
ça.
D'abandonner son enfant et de le laisser, ne pas le toucher parce qu'il est mort, c'est impossible.
Oui,
ça.
C'est impossible à imaginer. Oui. Impossible à imaginer.
Vous avez quelqu'un
vous avez quelqu'un qui est en face de vous, qui est est malade, qui a besoin d'aide, et il faut pas le toucher. Il faut. C'est votre père, c'est votre enfant, c'est votre femme, c'est votre fils.
Le mot de la fin, Véronique Tadjo, c'est pour un libraire. Ça va être positif, je l'espère. Claire Renaud est en Suisse. Allez-y, concluez, Claire.
Oui, c'est très surprenant, justement, parce que c'est une horrible tragédie et votre écriture, elle est élégante et poétique. Je suis donc pas très d'accord avec Jérémy.
Vous n'êtes pas obligé de vous acharner tous contre Jérémy non plus.
Non, parce que cette écriture, pour moi, elle est vraiment magnifique. Et le cœur, parce que toutes ces voix, ça me fait penser à ces chœurs dans les pièces antiques, donne justement un aspect théâtral au récit, puis surtout une grande force. Et donc moi, j'ai découvert Véronique Tadjo et dorénavant, je la suivrai.
Exactement, suivez Véronique Tadjo avec ce roman qui est sur notre plateau, En compagnie des hommes, paru chez Don Quichotte, un récit fort, intelligent et d'une grande lucidité sur notre monde. Merci Véronique.
Merci beaucoup.
À très bientôt, je l'espère. Au revoir.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
On termine avec de l'humour parce qu'il en faut ce week-end avec le coup de pouce et une découverte musicale francophone. Voici la chanteuse Livia avec un extrait du Blaireau riche.
Je ne sais pas comment te l'expliquer, ça vient du fond. Du fond de mes entrailles, cet endroit creux et chaud, fragile comme un morceau de paille que je sens si présent quand je lui parle. Tu vois, mon mec, quand je lui dis oui, je me sens comme une souris, une petite souris en cage, en âge qui connaît pas la sortie. Le trou de la sortie, le trou tout court, le troubadour, le trouvez-moi. Trouvez-moi. Je vis avec un blaireau riche qui ne comprend rien à ma vie. Je vis avec un homme en plastique que je garde juste pour ma survie. Je marche en tâtant du talon de salon, tout en tâtant le bout de mes tétons. Un bruit qui court derrière le rideau lourd, j'entends qu'il ronfle encore plus fort. Ce gros bâtard de boules de naphtaline dans mes, j'y ai déjà pensé. Des caches et des pastilles, des somnifères dans le fond de mon verre. Mais le creux de ses fesses arrondit dans les draps du lit. Juste pour ma survie.
paupières fermées, ça y est, je me sens enfin tranquille, je peux faire ce que je veux. C'est pas trop tôt, je me mets à danser comme une folle, à m'en rendre mal au cœur. Je perds toutes les notions de l'équilibre, de la pesanteur. Ma liberté chérie, je ne la partage pas, elle est plus belle quand il n'est pas là. Je vis avec les robots qui ne comprennent rien.
Livia, le blaireau riche, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri Marc Mutel avec Julien Dumont et Tristan Gratalon. Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Vera Lou de Ride et Christophe Magère en France. Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Elput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, Philippe Jaénada, prix Femina 2017. La chanteuse Jeanne Chéral qui le rencontrera. Et l'auteur suisse Mélanie Chaline. Puis passez un bon week-end, une bonne semaine. Salut. Un dernier mot pour vous dire que Radio France et donc la librairie francophone s'associent au Téléthon 36-37. On compte sur vous, même une petite somme, c'est très important. 36-37, merci d'avance. La librairie francophone sera rediffusée à 1h du matin avec le bonus créole à suivre comme un bruit qui court. Vous écoutez France Inter, il est 16h en métropole, 5h à Tahiti.